L'Afrique dans tous ses états. Une émission réalisée et produite par Radio FM+.
Bonjour à tous et à toutes pour cette nouvelle émission sur FM+, une émission consacrée à l'Afrique depuis déjà bien sûr plusieurs années. Et c'est, je parle bien sûr de Afrique dans tous ses états, toujours avec Marie-Claude Siakezak. Bonjour Marie-Claude.
Et oui, moi je suis toujours là quand il s'agit de l'Afrique et que Guylaine m'invite ou me convoque, j'accours.
Et aujourd'hui, Marie-Claude, votre invitée, c'est Sabine Perrier-Bonnet. Bonjour voilà. Sabine.
Bonjour.
Et bienvenue à vous.
Merci Sabine d'être venue.
Alors évidemment, Sabine Perrier-Bonnet, malgré que son nom ne nous dise rien par rapport à l'Afrique, a pourtant une longue histoire avec le continent africain. Oui. J'ai cru entendre comme ça près de 20 ans, Marie-Claude.
Je pense que c'est beaucoup plus.
C'est beaucoup plus.
Beaucoup plus encore. Alors, on y va.
Moi, je n'ose pas trop dire, c'est une dame, donc voilà. Mais il faut dire qu'elle a commencé très jeune, n'est-ce pas, Sabine?
Voilà, j'ai commencé très jeune et c'est vrai que j'ai posé le pied en Afrique du Sud il y a très longtemps. Je pense que je vais donner une date parce que ça explique un petit peu la situation. C'était en 1978, je venais de passer mon diplôme d'infirmière et je suis partie parce que je souhaitais visiter le Lesotho, un petit pays indépendant au cœur de l'Afrique du Sud, où des membres de ma famille, un peu éloignés, avaient été missionnaires. Et donc, l'histoire commence là, avec l'Afrique. C'est le souhait de visiter l'Afrique, d'aller dans des lieux connue par certains qui m'ont accompagnée au début. Et de là, je peux dire que jusqu'à aujourd'hui, je suis restée en lien proche, très proche avec le continent africain.
Donc des missionnaires protestants?
Oui.
On peut le préciser.
Oui. Tout à fait.
Catholique,
mais tout à fait.
Dans ces pays-là, le protestantisme était fortement représenté.
Alors, au Lesotho. Avec les missionnaires, effectivement protestants, mais ce n'est pas dans le reste du continent africain, puisque je parle du protestantisme d'ici, des Huguenots ou des Parpaillots, comme on nous appelle, qui sont d'origine des Cévennes de la France. Alors que pour le reste du continent africain, les protestants dont on parle très souvent sont en fait d'origine américaine. Et ça n'a rien à voir aujourd'hui.
Même au Togo, même au Togo. Parce qu'il y a beaucoup de protestants au Togo.
Mais il y a des pays, il y a des petites poches qui existent encore, bien sûr, aujourd'hui, mais ça reste des petites poches.
Voilà. Oui, parce qu'il faut rappeler quand même que les protestants ont été des migrants. On parle de migration, on était des migrants, puisque la révocation de l'édit de Nantes, interdiction de pratiquer la religion. On en retrouve en Allemagne, il y a des quartiers entiers, on en retrouve un peu partout.
Et en Afrique du Sud.
Et voilà, et au Lesotho.
Et en Afrique du Sud, voilà. Bon.
Alors, donc, voilà. Vous partez donc une visite, finalement, un retour à une histoire familiale. C'était d'abord votre premier objectif. Qui ensuite peut-être a changé, mais c'était votre intention.
Je dirais que ce n'était pas forcément une histoire familiale, c'était plutôt une histoire personnelle. On finit ses études et à l'époque, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, on commençait tout de suite à travailler. Mm-hmm. Et puis, en tant que femme, on fonde une famille, un foyer. Mais l'idée d'aller voyager n'était pas d'actualité comme ça l'est aujourd'hui avec les parcours Erasmus ou avec la facilité que l'on a de voyager, qui fait que beaucoup de jeunes partent le sac à dos. Ben là, je suis partie, j'avais 20 ans, j'avais un diplôme en poche et je suis partie en Afrique. Et je me souviens qu'au moment du départ, mon père m'avait dit, il était professeur d'histoire-géographie, il m'avait dit, écris tous les jours ce que tu fais pour me raconter comment ça s'est passé. Et puis ma mère, plus gentiment, avait dit reviens seule parce que quand tu reviendras, ça sera le moment où il faudra se marier. Voilà. Je dis ça avec beaucoup de délicatesse. Donc voilà, je suis partie. Et au départ, c'était le désir d'un grand voyage, le désir d'une découverte. Et en fait, après avoir visité Lesotho avec ma cousine qui était née sur place, qui parlait la langue locale, qui était fille de missionnaire, missionnaire, je suis restée et je suis restée pendant des années à traverser le continent africain et à en profiter parce que ça a été et c'est encore une aventure extraordinaire.
Donc la cousine, c'est celle qui avait fait venir les
Oui, la famille Cook. Oui. La famille Cook qui a été missionnaire pendant très très longtemps au Lesotho et dont les enfants, après avoir passé leur bac en Afrique du Sud, étaient revenus étudier, en particulier ma cousine à Montpellier, en océanographie. Voilà.
D'accord.
Alors, vous avez évoqué votre métier d'infirmière, vos voyages. Est-ce que ces voyages étaient en lien avec votre profession ? Comment ça s'est organisé, ce parcours du continent africain ?
Ça s'est absolument pas organisé. C'est venu comme c'est venu jour après jour dans la richesse des rencontres et des découvertes. Quand ma cousine est repartie en France, je lui ai dit je reste parce que j'avais trouvé un travail et que l'aventure me plaisait. Donc on était pendant l'apartheid, il faut se souvenir, hein, c'était l'époque où Nelson Mandela cassait des cailloux au Cape Town, et puis les Blancs d'un côté, les Noirs de l'autre, et là j'avais trouvé un travail parce qu'il y avait une clinique d'enfants handicapés qui était tenue par deux Anglaises, des Blanches. Tout le personnel était un personnel africain qui venait de Soweto. Et ces deux dames extrêmement compétentes voulaient partir en vacances. Elles n'étaient pas parties en vacances depuis 6 ans parce que les établissements ne pouvaient pas rester sans personne blanche à la tête. Et je me suis retrouvée à 20 ans, ne parlant pas bien anglais, n'étant pas du tout compétente, je me suis retrouvée à la tête de cette clinique pendant 6 mois pour m'occuper d'enfants de familles blanches, handicapés, très gravement handicapés. Et j'ai eu ce bonheur de rencontrer des équipes médicales africaines absolument extraordinaires qui ont fait tout le travail pour moi, parce que je n'en avais pas, très honnêtement, la compétence. Et ça a été quelque chose d'assez extraordinaire qui m'a beaucoup appris et surtout qui m'a permis d'être extrêmement reconnaissante par rapport à ces Africains qui comprenaient la situation et qui respectaient cette différence. Et pour terminer cette première étape de vie en Afrique du Sud, elle s'est terminée d'une manière assez dramatique puisque un des médecins avait été gravement attaqué dans Soweto. Sa vie était en danger. J'avais décidé d'aller le voir pensant que peut-être que je ne le reverrais jamais. Et j'étais rentrée dans Soweto, dans le coffre d'une voiture, puisqu'on n'avait pas le droit de rentrer dans ce lieu-là. J'étais allée à Baragwana Hospital, l'hôpital, le grand hôpital de Soweto. J'avais pu voir cette personne que j'aimais beaucoup. J'avais pu la saluer. Et bien sûr, en repartant, toujours dans le coffre de la voiture, j'avais été arrêtée par la police qui tout de suite m'ont amené à Johannesburg, dans la ville, m'avait supprimé mon passeport et m'avait dit en souriant « Vous êtes assise à la place de Steve Biko ». Et je ne savais pas à l'époque qui était Steve Biko, j'avais 20 ans, je n'étais pas très cultivée. Et vous pouvez comprendre ce qu'a été la suite, j'ai été expulsée dans la semaine qui suivait. Et ça a été ma première expérience en Afrique du Sud. Et expulsée, j'ai pu partir sur l'île La Réunion, qui n'était pas loin. Et ça a été ma première aventure liée à une situation particulière en Afrique du Sud, qui n'a plus lieu d'être, bien sûr, aujourd'hui.
Voilà, alors là, je trouve qu'on retrouve chez Sabine, que je connais un peu, on retrouve deux notions. On retrouve quand elle dit ça s'est fait à l'occasion de rencontres, etc. C'est vrai que en Afrique, l'histoire, elle s'écrit pas avant, elle s'organise pas. Les choses viennent comme elles viennent. Enfin, c'est un peu la philosophie, un petit peu, puis la façon de vivre souvent des habitants. Ça marque un peu peut-être le continent comme ça, c'est venir. Donc, et puis le côté, je retrouve le côté résistant, protestant. Qui fait qu'à un moment, on peut se faire expulser parce qu'on a pris le risque de se faire voyager pour aller dans un lieu interdit aux Blancs. dans un pays où c'était interdit d'un côté aux blancs et de l'autre aux noirs, hein, de toute façon, aux noirs, voilà. Et je retrouve un peu ces deux notions-là, le côté africain, que moi j'ai connu bien longtemps après et que je continue de côtoyer et de voir, et puis le côté résistant, protestant. Voilà. Merci Sabine, en tout cas. Je ne savais pas tout ça.
Et j'ai été encore expulsée, mais je vous raconterai ça dans un autre pays beaucoup plus francophone. Mais ça, c'était beaucoup plus tard.
Est-ce que vous avez tenu l'engagement que vous aviez auprès de votre père ?
Oui, alors tout à fait, tout à fait. J'ai eu le bonheur, après un séjour passionnant sur l'île de la Réunion, j'ai eu le bonheur de pouvoir m'offrir un voyage extraordinaire qui était celui de Johannesburg jusqu'à Victoria Station. Victoria Station étant la grande gare de Londres. Et ayant travaillé à La Réunion, ayant mis des sous de côté, je me suis offert un voyage en truck, en camion. À l'époque, ça se faisait beaucoup, la traversée de l'Afrique. Il n'y avait pas du tout la situation actuelle. Et donc, j'ai pu refaire faire un passeport. Donc, il n'y avait plus de permis de travail ni de visa en Afrique du Sud. J'ai pu revenir en Afrique du Sud, mais juste pour aller à la gare de Johannesburg, prendre le train pour le Botswana, le pays qui est juste au nord. Et j'ai eu le bonheur de traverser le continent africain en camion avec des anglophones. J'étais la seule francophone, donc ça a pris presque 6 mois au lieu de 3, puisqu'il y avait eu des soucis de pièces détachées du camion. Et
normal.
Donc voilà.
C'est la vie normale.
Nous avait permis de rester plusieurs semaines sur Garoua au Cameroun, ce qui n'était pas prévu. Et donc j'ai eu ce bonheur de traverser l'Afrique, de pouvoir voir les chutes Victoria en Zambie, de pouvoir monter au sommet du Kilimandjaro en Tanzanie. Et puis, ça a été des moments extraordinaires de découverte et d'imprévus. Hein. On reste beaucoup sur l'imprévu, jour après jour, heure après heure.
Et si on ne peut pas vivre l'imprévu, il ne faut pas aller en Afrique.
Hein. Voilà, tout à fait.
Je déconseille
formellement. C'était assez fort, d'autant plus que, je le rappelle, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas de portable. Il n'y avait pas de téléphone, on n'avait que des aérogrammes, ces petites enveloppes bleues entourées du drapeau bleu, blanc, rouge, qui était le seul moyen de, je dirais, d'avoir des contacts avec la France. Donc c'était une autre période. Donc on voyageait et je me souviens, en quittant le nord du Kenya, on voulait aller à Bangui, la capitale de la République centrafricaine. Et puis en arrivant à la frontière ougandaise, il y avait un panneau, il y avait des militaires qui nous disaient « interdit d'y rentrer ». On était donc en 79 et il y avait des panneaux Green Monkey Disease, ce qui est toujours d'actualité aujourd'hui. Alors, ce sont ces maladies. Alors, au départ, c'était peut-être le sida, c'était peut-être Ebola, on ne sait pas aujourd'hui ce que c'est. Mais voilà, l'imprévu. Et puis, à une période où, quand on est arrivé à Bangui, par exemple, c'était 3 semaines après la chute de Bokassa. Donc, ça peut parler à certains. De notre génération. Donc c'était vraiment une aventure extraordinaire qui m'a permis de faire quelque chose qu'on ne peut plus faire forcément aujourd'hui. C'est que quand on arrive au Nigeria, on remonte sur le Niger, on arrive en Algérie, d'Algérie on traverse le Maroc on traverse
l'Espagne. Ça on ne peut plus le faire, hein, Sabine, terminé.
Tout ça,
hein.
Voilà. Donc c'est pour dire que c'était une période assez extraordinaire pour arriver ensuite à la gare de Londres. Et là, en rentrant en France, en stop, avec mon sac à dos, après 2 ans d'absence, et à Paris, on m'a volé mon sac à dos. Et donc, le gentil monsieur qui m'avait pris en stop à Londres m'avait offert le billet de train pour redescendre à Arles, là où étaient mes parents. Et je suis arrivée un jour sans pouvoir les prévenir. Hein. Vous imaginez un temps où il n'y avait pas de téléphone ni Internet. Je suis arrivée les mains vides et j'ai pleuré en disant à mon papa, j'avais 5 cahiers, des colliers remplis et on me les a volés. Voilà le pourquoi j'avais tenu parole vis-à-vis de mon papa, mais je n'ai rien pu ramener puisqu'on m'a tout volé en arrivant en France.
On voilà. a volé ces mémoires-là, en tout cas.
Oui, oui, oui.
Bon, pas dans la tête, mais en tout cas sur
voilà.
papier.
Voilà, donc ça, ça a été le fait de garder que dans la tête. Mais un jour, j'ai prévu d'écrire.
Donc ça,
parce que
oui,
j'ai gardé beaucoup de souvenirs dans la tête. Et je pense pouvoir refaire ce trajet.
Ce sont des expériences. Et puis en plus, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un tel changement dans le monde, avec ce dont on parlait tout à l'heure, cette impossibilité. Maintenant, il y a des choses qui sont complètement aberrantes et impossibles de par la situation du monde actuellement. C'est vrai que c'est bien qu'il y ait encore des témoignages comme ça qui puissent aider. Alors, il y a ceux de nos générations qui, évidemment, vont retrouver, mais il y a ceux des jeunes générations qui, peut-être, vont peut-être aussi pouvoir explorer ce qu'ils ne peuvent plus explorer. Parce que c'est vrai que remonter, refaire l'Afrique par la route, maintenant, je crois qu'il faut être un peu allumé, quoi, pour... vu les situations un peu partout.
Mercenaires.
Ou... Voilà, exactement. Alors, voilà, on va parler d'être armé.
Sabine Perrier-Bonnet, on a parlé en début d'émission, c'était une vie entière sur le continent africain. Ici, on n'en est qu'à 2 ans. Donc, que s'est-il passé après Arles?
Après, j'avoue que, étant passionnée et gardant ayant vu un petit peu la situation sanitaire qu'il y avait en Afrique, le manque terrible de médecins, d'infirmières, de moyens, l'impact énorme de la médecine traditionnelle qui avait du bon.
Qui a du bon toujours d'ailleurs.
Et qui a du bon des plantes aussi, beaucoup de connaissances plantes. Et en même temps, qui était suffisant. Donc moi, récemment, je suis allée à Anvers faire mes études de médecine tropicale. Et puis après, voilà, il y a eu tout un processus d'études, de complet bonheur, de tenir un dispensaire pendant 2 ans au Burkina Faso. Au
voilà,
nord,
chez moi là-bas.
Chez les Samo, dans un village qui s'appelle Kui, et à côté de Tougan. Et j'ai eu le bonheur pendant 2 ans. D'avoir une polyvalence de travail énorme, puisqu'il fallait s'occuper du dispensaire, il fallait monter une pharmacie locale, villageoise, il fallait tenir la maternité, et comme vous le savez sûrement, puisqu'on est toutes des femmes, ici aujourd'hui, eh ben, on accouche bien souvent la nuit, donc il fallait soigner la journée, il fallait aider à accoucher la nuit, et il fallait faire des vaccinations, puisque la rougeole faisait des dégâts énormes, et puis tout ce qui touche les soins de santé primaires, et puis par-delà, ben, parce qu'il y avait beaucoup à faire, eh ben, on a appris à faire des foyers améliorés dans les écoles et dans des structures publiques pour pouvoir économiser le bois, parce que déjà à l'époque, on est dans les années 80, les femmes avaient beaucoup, beaucoup de travail pour récolter le bois. Et puis, bien évidemment, j'ai eu à faire un travail de dentiste. Alors, c'était souvent pour simplement enlever les dents mauvaises qui faisaient mal. Je ne savais pas faire plus, bien sûr. Et puis, très étonnamment, on m'amenait des animaux à soigner et je me suis mise à recoudre des plaies sur les ânes, sur les chèvres, sur les chiens, ce qui était assez étonnant. Donc pendant cette période, ça a été assez divers, mais passionnant. Passionnant, et au sein d'un village où la population est extrêmement agréable avec moi et très, je dirais... En même temps, me sollicitant beaucoup pour les soins et en même temps partageant la situation. Et je me souviens avoir fait mon champ d'arachide à côté de celle des femmes. Et je pense que jamais elles n'ont autant ri de voir ma récolte, qui était vraiment la plus mauvaise qui puisse exister. Et c'était des contacts extraordinaires. Et de ces 2 ans passés, je peux dire, s'il y a des Burkinabés qui m'entendent, des Samo, on m'avait offert une kora. Et je l'ai toujours. J'ai toujours cette kora à la maison. Et le chef du village...
Je transmettrai à mes amis Samo.
Voilà, et j'ai toujours la kora dans mon salon et c'est beaucoup d'émotion. Donc ça a été une période suivante. Et puis après, j'ai continué à travailler avec la Croix-Rouge internationale, donc sur Genève, pour cet grave épisode de famine qui a eu lieu de 84 à 86 dans le Sahel. Et donc, je suis partie au Tchad, au nord du Tchad, à Mao, pour aider à la distribution alimentaire pour les femmes, les enfants et les personnes âgées et créer des centres de récupération nutritionnelle. C'est à l'époque où il y avait la guerre avec le Nord, avec la Libye, il y avait la force Manta qui était présente, la force militaire française, et qui m'aidait beaucoup. Parce qu'ils avaient la possibilité d'aider un peu au niveau médical, donc j'avais un peu de médicaments. Et c'est dans ce pays que j'ai subi ma deuxième expulsion.
Ah, nous y arrivons.
Au Tchad, puisque l'armée avait faim, l'armée n'avait pas de vivres, et ils avaient essayé de me prendre les vivres qui étaient réservés pour les centres de récupération nutritionnelle, donc les enfants, les femmes enceintes qui arrivaient du nord du Burkina, du nord du Tchad, dans la zone du BET, parce que c'était la famine, il y a sécheresse, il n'y avait plus une goutte d'eau. Et donc je me suis opposée aux militaires, et du coup ça s'est un peu mal passé. Du coup, de nouveau, on m'a pris mon passeport, et de nouveau, pour la deuxième fois de ma vie, mais ça a été la dernière quand même, on m'a rendu mon passeport en haut de l'échelle de l'avion Air France qui me ramenait à la maison. Donc au Tchad, ça a été une période extraordinaire, mais très douloureuse, puisque là déjà, mon chauffeur a eu de gros ennuis une fois que je suis partie. Et lors de cette période de famine et sécheresse, je suis partie ensuite au Soudan, au nord du Soudan, dans le Darfour, qui est la région qui colle le Tchad. Ils ont une frontière commune. J'ai pu même aller jusqu'à la frontière du Tchad quand j'étais au Darfour. Et là aussi, famine, sécheresse, mais une situation plus difficile, puisqu'il y avait une guerre civile importante dans ce coin. Les Libyens étaient présents. Et il y avait beaucoup, malheureusement, les États-Unis n'étaient pas tout à fait au courant, ils envoyaient beaucoup d'Américains. Et c'était mettre ces Américains en danger parce que la zone était extrêmement difficile. Et là aussi, j'ai fait pendant 9 mois de la distribution alimentaire dans des villages désertés par les hommes. Où il n'y avait que des femmes, des personnes âgées, des enfants. C'était dramatique. C'est une zone, par exemple, qui était le premier gros producteur de gomme arabique. Ils avaient des arbres partout et les arbres mouraient les uns après les autres. Donc c'était aussi, résultat de sa sécheresse, c'était aussi pour cette région une période bien difficile. Et donc voilà, donc le Soudan où j'avais eu le bonheur de rencontrer le sultan du Soudan et qui m'avait parlé de Napoléon. Voilà, donc au Soudan, le sultan qui avait fait ses études en Angleterre connaissait que Napoléon. Et donc la France, c'était Napoléon.
Inspiré par Napoléon.
Voilà. Et donc ça avait été une période extraordinaire pour aider les familles à rester dans les villages, à pouvoir manger. Et en même temps, j'avais appris ma première grande leçon africaine, c'était d'aller à l'encontre de ce qu'on me demandait au niveau européen. Il fallait donner la nourriture aux chefs de village,
et oui.
Surtout pas aux pauvres. Il fallait donner aux chefs parce que c'était le chef qui savait dispatcher comme il le fallait à toute la population et préserver donc tout son village, toute sa population. Et ça a été très dur à expliquer aux Européens, aux Suisses en particulier, que pour que tout le monde ait à manger, c'est en Afrique le chef qu'il faut respecter. Et je l'ai fait, on m'a tapé sur les doigts, mais ça a été la première grande leçon que j'ai appris. C'est en passant par ce système-là, qui est traditionnel, qui est respectueux de tout un chacun, que toute personne, même la femme isolée, le vieillard isolé, aurait à manger. Et donc ça a été vraiment quelque chose d'extraordinaire. Et malheureusement, comme j'ai pu le dire pour le Tchad, pareil, quand je suis partie, mon interprète a été tué et le chauffeur, je ne sais pas ce qu'il est devenu, mais je pense que... Donc c'est pour vous dire que c'était un travail dans des situations extrêmement difficiles et très militarisées. Donc pour moi, ça a été une expérience très, très humaine, très, très riche et en même temps, pour nous, Français, qui sommes tellement protégés, c'était aussi une expérience de vie assez, assez forte.
Tout à fait. Et puis je dirais qu'une initiation vraiment au respect de la culture de l'autre, et que c'est très difficile dans cette position, quand on est là pour gérer des situations d'urgence, etc., de se trouver dans une interface entre la population locale et les Européens. Parce qu'il y a une incompréhension, effectivement, et que pour avoir beaucoup d'échos, pour échanger beaucoup, quand on veut se passer du chef du village, souvent, ben, les projets, ils capotent, quoi. Si on ne passe pas par celui qui, justement, est capable de gérer et reconnu pour ça par la population. Donc, ce sont sauf que là, c'est dans des situations quand même douloureuses aussi, hein, parce qu'il y a quand même la faim... La vie.
La faim, la guerre civile, l'absence des hommes.
L'absence des hommes, etc.
Beaucoup de facteurs difficiles, mais du coup, un très grand respect pour cette découverte toute petite. Hein. Je reste très, très modeste, même si j'ai passé beaucoup de temps en Afrique, je ne connais rien.
Beaucoup de temps.
Voilà, je ne connais rien, mais par contre, cet apprentissage et cette gentillesse de la population, cette protection que j'ai eue en permanence, sans aucune distinction. C'était pas forcément la blanche qu'on voulait protéger, mais c'était l'être humain la personne, tout simplement.
Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a frappé beaucoup. C'est que quand même, quelque part, quand on est reconnu dans ce qu'on fait ou dans l'intégrité de ce qu'on fait, on n'a pas de souci à se faire, quasiment. Quasiment pas. Bon, à part après, mais comme tout un chacun à ce moment-là. Mais c'est vrai, ce que dit Sabine, c'est que vraiment, quand les gens sentent vraiment ce pourquoi on est là et ce qu'on fait, et ce qui est, voilà. Je pense qu'il y a une protection, y compris du fait qu'on est étranger. Mais c'est pas du tout raciste, c'est au contraire, c'est quelque chose, c'est un plus, quoi. C'est comme si on avait besoin d'avoir une protection supplémentaire. Donc, c'est bien. Merci, Sabine.
Alors, cette première émission avec vous, Sabine Perrier-Bonnet, s'achève. Vous nous avez choisi toutefois un moment musical à nous faire partager.
C'est Myriam Makeba. Madame le titre, Makeba. Je ne le dirai pas parce que je ne parle pas bien.
Voilà, Myriam Makeba, qui est pour moi, et que j'ai plaisir à partager avec vous, elle vient d'Afrique du Sud, elle a été expulsée du temps de l'apartheid parce qu'elle n'avait pas le droit de chanter. Et elle est un beau message de l'Afrique, une voix magnifique et une revendication de sa culture qui est extraordinaire. Donc, plaisir de partager ça avec vous.
Une sacrée bonne femme, quoi. Merci à la technique.
Merci.
Et à la semaine prochaine.
Sabine Perrier-Bonnet. Merci Marie-Claude Siak-Ezac.
Merci.
Et on retrouve bien sûr cette émission en podcast sur le site radiofmplus.org. Et aussi, on l'écoute à la radio, bien sûr.
Oui.
In my native village in Johannesburg, there is a song that we always sing when a young girl gets married. It's called the click song by the English, because they cannot say "Ongotwane." Iqirha lendlela nguqongqothwane Iqirha lendlela kuthwa nguqongqothwane Iqirha lendlela haya nguqongqothwane Iqirha lendlela kuthwa nguqongqothwane Haya sele qabele qitha Mtanam, helele, helele, his impondo scabao.